Vous écoutez
RMC.
Quand l'histoire éclaire notre actualité, comme chaque matin, avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Pauline.
Arthur, depuis hier, Emmanuel Macron est aux Émirats Arabes Unis avec les troupes françaises et le président de la République a annoncé la construction d'un nouveau porte-avions.
Et oui, pour l'instant, son nom de code à ce porte-avions, c'est le PANG, hein, P-A-N-G, les initiales pour porte-avions de nouvelle génération. Sa mise en service est prévue pour 2038 et donc il remplacera poste pour poste notre navire amiral actuel, le Charles de Gaulle.
D'autant que la France est très performante dans le domaine des porte-avions.
Ah, et nous sommes même précurseurs. Hein. On est parmi les premiers à avoir imaginé quelque chose qui ressemblait plus ou moins à un porte-avions. Hein. Puisque au début du XXe siècle, on a une idée. On prend un bateau normal, un aviso, c'est un petit navire de guerre. On le bricole un peu et on ajoute une piste de décollage sur la proue, une petite piste. Et en 1910, on arrive à faire décoller un avion de ce bateau. C'était rudimentaire, mais l'idée était là. Utiliser les avions pour aider la marine. Alors attention, on ne savait que décoller, pas encore atterrir sur le bateau.
De quand date le vrai premier porte-avions ?
De 1917, Apolline. Et là, on est complètement dépassé par la Royal Navy anglaise. Ce premier porte-avions s'appelait le Furious. Alors en réalité, c'était un ancien paquebot où on avait aménagé une immense piste d'atterrissage. À cette époque, les avions qui décollent n'ont pas encore de fonction combattante. Hein. Ils sont surtout utiles pour les missions de reconnaissance. Le premier porte-avions français, lui, est mis en service en 1920. Il s'appelait le Béarn. Il mesurait 180 mètres de long pour 25 000 tonnes et il pouvait transporter 40 avions.
Quand est-ce que les porte-avions commencent à vraiment faire la différence ?
Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, et là, c'est au tour des Américains de prendre le dessus. Ils vont donner aux porte-avions ces lettres de noblesse pendant une guerre qu'on appelle la guerre du Pacifique. Hein, c'était contre les Japonais. Pour la première fois, on met les porte-avions au cœur de la stratégie navale. Hein. Ces monstres d'acier deviennent de véritables bases flottantes qui permettent en fait à une armée de se projeter très très loin de chez elle, ce qui évidemment donne une grande autonomie et ça change radicalement le visage de la guerre.
Au total, la France a eu combien de porte-avions ?
8, et c'est énorme hein, pour un pays de notre taille. Alors il n'y en a que 3 en fait, hein, qui étaient des vrais porte-avions au sens où on l'entend aujourd'hui. Les deux premiers ont été lancés dans les années 1960, c'était le Foch et le Clémenceau, hein, c'était quasiment des jumeaux. Ils vont naviguer jusqu'à la fin des années 90, où ils seront donc remplacés par le Charles de Gaulle.
Une des grandes réussites de l'industrie de l'armement français.
Mais oui, on le dit pas assez, Apolline, mais le Charles de Gaulle, c'est un des bateaux de guerre les plus performants du monde. Hein. 40 000 tonnes, 260 mètres de long, 2000 hommes d'équipage, tout ça avec une propulsion nucléaire, ce qui démultiplie la puissance et l'autonomie. Les seuls pays à avoir des porte-avions nucléaires, c'est les États-Unis, ils en ont 11, et la France, donc c'est un club très fermé. Nous ne sommes que 2, et vous voyez, la barre est placée très haut pour le PANG.
Et on sent que vous aimez ça quand même, on peut le dire.
J'adore ça, j'adore
ça. Vous avez vous-même un petit peu navigué sur un porte-avions, non ?
J'ai moi-même navigué, pas sur un porte-avions, mais à côté du porte-avions.
À côté du porte-avions. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, passionné de la marine.